Histoire du jeune bandit. Je naquis dans la petite ville de Frosinone, située sur le penchant des Abruzzes. Mon père avait gagné quelques biens dans le commerce et m'avait donné une certaine éducation me destinant à l'église. Mais j'aimais trop le plaisir pour endosser le capuchon et je devins un des enfants les plus paresseux de l'endroit. J'étais étourdi, parfois querelleur, au demeurant un bon diable. Aussi, tout alla bien jusqu'à ce que je devinsse amoureux. Un intendant au bailli du prince habitait la même ville. Il avait une jeune fille charmante, enfant qui touchait à sa 16e année. On la regardait comme quelque chose de trop distingué pour nos petits maîtres de village, et elle était soigneusement renfermée dans la maison paternelle. J'eus l'occasion de la voir souvent, et j'en devins passionnément amoureux. Elle avait le visage si doux, si tendre, si différent de celui des femmes brûlées par le soleil auxquelles j'avais été accoutumée jusqu'alors. Chaque fois que mon père me donnait quelque argent, je m'employais à m'habiller avec soin, et je profitais de toutes les occasions de me montrer avec avantage aux yeux de la jeune beauté. J'avais coutume de la voir à l'église, et, comme je savais jouer un peu de la guitare, j'allais en tirer quelques sons le soir sous ses fenêtres. J'eus différentes entrevues avec elle dans les vignes de son père, non loin de la ville, où elle allait souvent se promener. Évidemment, elle se plaisait avec moi, mais elle était jeune et réservée. Son père la surveillait strictement, et commençait à s'inquiéter de mes assiduités, car il n'avait guère bonne opinion de moi, et cherchait un meilleur parti pour sa fille. Je devins furieux des obstacles qui m'étaient opposés. J'avais toujours été accoutumé à réussir facilement auprès des femmes, étant regardé comme un des plus aimables cavaliers de la ville. Son père fit venir d'une ville voisine l'époux qu'il lui destinait. C'était un riche fermier. Le jour du mariage était fixé, et les préparatifs s'avançaient. Je l'aperçus à sa fenêtre. Il me sembla qu'elle jetait sur moi un regard triste. Je jurai que ce mariage n'aurait pas lieu, quoi qu'il dût m'en coûter. En conséquence, je joignis son prétendu sur la place du marché, ma rage s'exhala en invective, nous échangeâmes quelques paroles brusques et, de suite, je tirai mon stylet et lui plongeai dans le cœur. Je me réfugiai dans une église voisine où, avec un peu d'argent, j'obtins l'absolution. Cependant, je n'osais pas me hasarder à sortir de mon asile. À cette époque, notre capitaine formait sa troupe. Nous nous connaissions depuis l'enfance et, apprenant ce qui m'était arrivé, il vint me trouver en secret, me fit de telles offres que je consentis à me ranger au nombre de ses compagnons. Au fait, j'avais déjà plus d'une fois pensé à embrasser ce genre de vie, ayant connu plusieurs de ces bons diables des montagnes qui avaient coutume de venir reprendre libéralement leur argent au milieu de nous autres, jeunes gens de la ville. J'abandonnai donc mon asile pendant la nuit, me dirigeai au lieu du rendez-vous qui m'était assigné. Je fis les serments prescrits et me trouvai enrôlé dans la troupe. Nous restâmes quelque temps dans une partie écartée de la montagne et notre genre de vie sauvage et aventureux éveilla merveilleusement mon imagination et donna de la distraction à mes pensées. Bientôt, cependant, elles se dirigèrent avec toute leur violence vers le souvenir de Rosetta. La solitude dans laquelle je me trouvais souvent me donnait occasion de dévorer son image que j'avais toujours présente devant les yeux. Et une nuit, que j'étais de garde auprès de notre troupe endormie dans les montagnes, je sentis mon cœur déchiré par une foule de sentiments douloureux, et j'éprouvai tous les feux de la fièvre. À la fin, nous quittâmes les montagnes, et nous nous déterminâmes à faire une descente sur la route entre Naples et Terracine. Dans le cours de notre expédition, nous passâmes un jour ou deux au milieu des bois et des rochers situés au-dessus de Frosinone. Je ne puis vous dire tout ce que j'éprouvai quand mes yeux plongèrent sur cette ville, quand j'aperçus la maison de Rosetta. Je résolus d'avoir une entrevue avec elle. Mais dans quel dessein? Je ne pouvais pas espérer qu'elle quitterait la maison paternelle pour me suivre dans ces montagnes. Elle avait été élevée avec trop de douceur pour cela. Et, quand je considérais les femmes qui étaient attachées à quelques membres de la troupe, je ne pouvais songer à lui donner de telles compagnes. Retourner à ma vie première m'était impossible. Ma tête était appris. Et cependant, je me déterminais à revoir mon amante. La difficulté et le danger de l'entreprise ne firent que m'affermir encore dans cette résolution. 3 semaines après environ, je persuadai au capitaine de s'approcher de Frosinone, lui montrant la possibilité de nous emparer de quelques-uns de ses principaux habitants et de leur faire payer de fortes rançons. Nous étions postés en embuscade sur le soir, non loin des vignes du père de Rosetta. Je m'éloignai sans bruit de mes compagnons et m'approchai pour revoir le lieu accoutumé de ses promenades. Avec quelle violence je sentis battre mon cœur quand je vis briller une rose blanche au milieu des arbres. Ce ne pouvait être que Rosetta. Elle était à peu près la seule femme du pays qui se vêtit en blanc. Je m'avançai avec précaution et sans bruit. Tout à coup, je m'élance au milieu des ceps de vigne et je suis devant elle. Elle pousse un cri, je la serre dans mes bras. Je mets ma main sur sa bouche, je la conjure de se calmer. Alors, J'ai penché dans son sein toute la violence de ma passion. Je lui offris de renoncer au genre de vie que je menais. Je mis mon destin à ses pieds. Je voulais fuir avec elle partout où nous pourrions vivre ensemble, en sûreté. Mais rien ne put la fléchir. Au lieu de l'amour, il semble que l'horreur et l'effroi se soient emparés de son cœur. Elle s'échappe à moitié de mes bras et remplit l'air de ses cris. En un instant, le capitaine et le reste de la troupe furent autour de nous. J'aurais donné tout dans ce moment pour qu'elle fût hors de nos mains et dans la maison de son père. Il était trop tard. Le capitaine déclara qu'elle était prisonnière. La fit conduire dans les montagnes. En vain, je lui représentai qu'elle était mon butin, que j'avais sur elle des droits antérieurs. Je lui rappelai mon ancien attachement. Un sourire moqueur fut sa réponse. Les intrigues de village ne le regardaient point. Et, dit-il, conformément aux lois de la troupe, toute prise de ce genre devait être tirée au sort. L'amour et la jalousie dévoraient mon cœur. J'avais à choisir entre l'obéissance et la mort. Je remis ma maîtresse aux mains du capitaine, et nous nous dirigeâmes vers les montagnes. Rosetta était saisie d'effroi. Ses jambes étaient si faibles et si tremblantes qu'on fut forcé de la supporter. Je ne pus soutenir l'idée de la voir dans les mains de mes compagnons, et, affectant une tranquillité que je n'avais pas, je demandai qu'on me la confiât comme à quelqu'un qu'elle connaissait mieux. Le capitaine fixa sur moi un regard scrutateur, mais je le soutins avec fermeté. Il consentit à ma demande. Je pris Rosetta dans mes bras. Elle était presque inanimée, sa tête retombée sur mon épaule. Je sentais son haleine sur ma figure et elle me semblait attiser le feu qui me dévorait. Grand Dieu, pressez contre mon sein ce trésor brûlant et pensez qu'il n'était plus à moi. Nous arrivâmes au pied de la montagne. J'avais peine à la soutenir dans les passages les plus resserrés de la forêt, mais je ne voulais pas abandonner mon précieux fardeau et je songeais avec fureur que j'y serais forcé bientôt. La pensée qu'une créature si faible, si délicate, allait être livrée à la brutalité de mes grossiers compagnons, m'ôtait l'usage de la raison. Je fus tenté de me faire un chemin au milieu d'eux, mon stylet à la main, et de l'emporter en triomphe. Mais je sentis toute la témérité de ce dessein. Je songeais, agité d'une fièvre brûlante, que je pouvais jouir seul de ses charmes. J'espérais échapper à mes compagnons par la vivacité de mes mouvements, et je cherchais à m'éloigner un peu de la tête de la troupe pour profiter de l'occasion de fuir qui pourrait s'offrir à moi. Vaine espérance! Le capitaine ordonna tout à coup de faire halte. Je frissonnai. Il fallut obéir. La pauvre enfant entr'ouvrit un œil languissant, mais elle était sans force et sans mouvement. Je la posai sur l'herbe. Le capitaine jeta sur moi un regard méfiant et m'ordonna de battre le bois avec mes compagnons pour chercher quelque berger qui pût aller demander sa rançon à son père. Je vis alors toute l'horreur de ma position. Résister avec violence, c'était demander la mort. Mais laisser Rosetta seule au pouvoir du capitaine... Je lui parlai avec une chaleur inspirée par ma passion et mon désespoir. Je lui rappelai que je l'avais prise le premier, qu'elle était mon butin. D'ailleurs, l'ancien attachement que je lui avais voué devait la rendre sacrée aux yeux de mes compagnons. J'insistai pour qu'il me promît de la respecter. Autrement, j'étais forcé de désobéir à ses ordres. Sa seule réponse fut d'armer sa carabine. À ce signal, mes camarades l'imitèrent. Ils insultèrent avec cruauté à ma rage impuissante. Que pouvais-je faire ? Résister était une folie. J'étais menacée de tous côtés. Je suivis mes camarades. Elle resta seule, avec le capitaine. Oui, seule, et presque sans vie. Ici, le voleur s'arrêta, étouffé par la pénible émotion qu'il éprouvait. De grosses gouttes de sueur coulaient de son front. Il semblait haleter plutôt que respirer, et sa large poitrine se soulevait et s'abaissait comme les vagues d'une mer agitée. Quand il fut revenu à un état plus calme, il continua son récit. « Je ne fus pas longtemps, me dit-il, sans trouver un berger. Je courais avec la rapidité d'un daim pour être de retour, s'il était possible, avant que le malheur que je redoutais fût consommé. J'avais laissé mes compagnons derrière moi, et je les rejoignis avant qu'ils eussent fait la moitié du chemin que j'avais parcouru. Je les ramenai en un instant au lieu où nous avions laissé le capitaine. En approchant, je l'aperçus assis à côté de Rosetta. Son regard triomphant et l'état déplorable de la malheureuse enfant ne me laissèrent plus douter de son destin. Je ne sais comment je pus commander à ma fureur. Ce fut avec une extrême difficulté et en guidant la main de la fortunée que nous lui fîmes tracer quelques mots, dans lesquels elle priait son père de remettre 300 $ pour sa rançon. La lettre fut aussitôt envoyée par le berger. Quand il fut parti, le capitaine fixa sur moi un œil sévère. « Vous avez, me dit-il, donné l'exemple de la subordination et de la mauvaise volonté. La troupe serait perdue si l'on souffrait ses fautes. Si je vous avais traité comme nos lois l'exigent, cette balle serait maintenant logée dans votre cervelle. Mais vous êtes un de mes anciens amis, et j'ai supporté avec patience votre fureur et vos folies. Je vous ai même défendu contre une passion insensée qui vous eût avili. Quant à cette jeune fille, nos lois suivront leur cours ordinaire. Puis il donna ses ordres. On tira au sort, et l'innocente victime fut livrée à la troupe. Le voleur s'arrêta encore. Son cœur palpitait violemment, et il demeura quelques moments avant de pouvoir continuer son histoire. L'enfer tout entier était dans mon sein. Je vis qu'il m'était impossible de me venger, et je sentis que, d'après les liens et les serments qui nous unissaient les uns aux autres, le capitaine était dans son droit. Je m'éloignai avec fureur de ce lieu funeste. Je me roulai par terre, j'arrachai l'herbe avec mes mains, je frappai ma tête contre les pierres et je grinçai les dents, en proie au désespoir et aux douleurs de l'agonie la plus affreuse. Quand je revins, je trouvai la malheureuse victime pâle, échevelée, son vêtement déchiré et en désordre. Un mouvement de pitié dompta un instant mes sentiments farouches. Je la portai auprès d'un arbre, au pied duquel je l'appuyai doucement. Je pris ma gourde. Elle était pleine de vin, et j'essayai de lui en faire avaler quelques gouttes. À quel état elle était réduite! Elle, que j'avais vue naguère, l'orgueil de Frosinone, qui encore peu d'heures avant que je n'entrasse dans les vignes de son père, était si fraîche, si belle, si heureuse. Ses dents étaient serrées, sa tête penchée vers la terre. Elle était sans mouvement, dans une insensibilité totale. Mon cœur se glaçait au souvenir de ce qu'elle avait été, à l'aspect de ce qu'elle était maintenant, défigurée et presque sans vie. Je jetai un regard d'horreur sur mes compagnons, qui me semblaient autant d'esprits infernaux triomphant auprès d'un ange tombé, et je songeai en frémissant que j'étais leur complice. Le capitaine, toujours défiant, découvrit avec sa pénétration ordinaire tout ce qui se passait dans mon âme. Il m'ordonna d'aller au sommet de la montagne et de guetter le retour du berger. J'obéis à l'instant, étouffant la fureur qui m'agitait, quoique je sentisse en ce moment qu'il était mon plus cruel ennemi. En chemin, une réflexion subite se présenta à mon esprit. Je m'avouai que le capitaine ne faisait qu'observer strictement les terribles lois auxquelles nous avions juré fidélité, que la colère qui m'avait transporté aurait pu justement, d'après ces mêmes lois, m'être fatale s'il ne l'avait tolérée avec patience, qu'il avait pénétré dans mon âme et ne m'avait éloigné que pour m'empêcher de me perdre entièrement dans mon désespoir. Et je sentis dès ce moment que j'étais capable de lui pardonner. Absorbé dans ces pensées, j'arrivai au pied de la montagne. Le pays était solitaire et sûr. J'aperçus, au bout de quelques instants, le berger traversant la plaine. Je m'empressai de le joindre. Il n'avait rien obtenu. Il avait trouvé le malheureux père plongé dans la douleur la plus profonde. Il avait lu la lettre avec une violente émotion et, tout à coup, devenant calme par un effort soudain, avait répondu froidement « Ma fille a été déshonorée par ces misérables. Qu'elle revienne sans rançon ou qu'elle meure. » Je frissonnai en entendant cette réponse. Je savais que, conformément à nos lois, sa mort était inévitable. Nos serments l'exigeaient. Je songeais toutefois que, n'ayant pu la posséder, il pourrait m'être au moins permis de devenir son bourreau. Le voleur s'arrêta encore dans la plus pénible agitation. Moi, je me répétais en frémissant ces dernières paroles, qui me prouvaient à quel excès peut se porter la passion quand elle a secoué le frein de la vertu. Il régnait dans tout son récit une horrible vérité qui me rappelait quelques-unes des fictions tragiques de Dante. « Nous arrivâmes à un moment affreux, » continua ce bandit. « Après ce que m'avait dit le berger, je retournai avec lui auprès du capitaine, qui apprit de sa bouche le refus qu'on faisait à sa demande. À un signal que nous comprîmes tous, nous le suivîmes à quelque distance de la victime, et il prononça sa sentence de mort. Chacun se tint prêt à l'exécuter. Je me présentai. J'observai qu'on devait quelque chose à la pitié aussi bien qu'à la justice, que j'étais aussi disposé qu'un autre à approuver l'implacable loi qui devait servir de leçon à tous ceux qui refusaient de payer la rançon demandée par nos prisonniers. Que cependant, quoique le sacrifice fût juste, il devait être accompli sans cruauté. « La nuit approche, » continuai-je. « Cette malheureuse sera bientôt plongée dans le sommeil. Qu'elle périsse sans se réveiller. Je ne réclame maintenant qu'un droit, que je fonde sur l'ancien amour que je lui ai voué. Laissez-moi frapper le coup. Je le ferai aussi sûrement mais plus tendrement que tout autre. » Quelques voix s'élevèrent contre ma proposition, mais le capitaine commanda le silence. Il me dit que je pouvais conduire mon amant derrière un buisson, à quelque distance, et du reste, il se reposait sur ma promesse. Je m'empressai de saisir ma proie. Il semblait que c'était pour moi une espèce de triomphe de devenir enfin son possesseur exclusif. Je la portai dans l'endroit le plus sombre de la forêt. Elle continua de rester dans le même état d'insensibilité et de stupeur. Il était heureux pour moi qu'elle ne pût me reconnaître. Car si elle eut seulement prononcé mon nom, j'étais vaincue. Elle s'endormit dans les bras de celui qui allait la poignarder. Ils furent affreux, Les combats qui se livrèrent dans mon âme avant que je me déterminasse à frapper le coup. Mais mon cœur était devenu insensible au milieu de tous les déchirements qu'il avait éprouvés, et je craignis que quelque instant de retard ne m'arrachât mon horrible droit de bourreau. Après l'avoir laissé dormir un moment sur ma poitrine, je me séparai d'elle doucement afin de ne pas troubler son sommeil, et, saisissant tout d'un coup mon stylet, je le plongeai dans son sein. Un murmure pénible et concentré, mais sans aucun mouvement convulsif, accompagna son dernier soupir. Ainsi périt l'infortuné. Ici, le jeune bandit termina sa funeste histoire. Assis à côté de lui, frappé d'horreur, je cachai ma figure dans mes mains et cherchai, pour ainsi dire, à éloigner de moi les tableaux affreux qu'il avait exposés à ma vue. Je fus arraché à cet état d'engourdissement par la voix du capitaine. « Vous dormez, me dit-il. Il est temps de partir. Levez-vous, la nuit vient. Le messager n'est pas de retour, nous allons abandonner cette hauteur. Je placerai une sentinelle sur le penchant de la montagne pour le conduire à l'endroit où nous devons passer la nuit. » Cette nouvelle n'était pas fort agréable pour moi. Le récit affreux que je venais d'entendre m'avait navré le cœur. J'étais fatigué, j'étais épuisé, et la vue des brigands commençait à me devenir insupportable. Le capitaine assembla ses camarades. Nous descendîmes rapidement la colline que nous avions gravie le matin avec tant de peine, et nous arrivâmes bientôt à ce qui nous parut être une route fréquentée. Les voleurs s'avançaient avec beaucoup de précaution, tenant à la main leurs fusils armés et portant de tous côtés leurs regards méfiants. Ils craignaient de rencontrer les postes de ronde. Nous laissâmes Rocaprioli derrière nous. Arrivé auprès d'une fontaine, et me trouvant très altéré, je demandai la permission de m'y arrêter et de boire. Le capitaine y alla lui-même et m'apporta de l'eau dans son chapeau. Nous continuions notre route quand, à l'extrémité d'une allée qui croisait le chemin où nous marchions, j'aperçus une femme à cheval, vêtue de blanc.
Elle était seule.
Je me souvins de l'histoire de la pauvre Rosetta et je tremblais pour le sort de cet inconnu qui paraissait devoir infailliblement tomber entre les mains de la troupe. Un des brigands l'aperçut et courut précipitamment au-devant d'elle. S'arrêtant sur la lisière de l'allée, il se baissa, mit un genou en terre, tint sa carabine dirigée sur elle, prêt à tuer son cheval si elle tentait de fuir. Et, dans cette posture, il attendit son approche. Je tins mes yeux fixés sur l'étrangère avec l'inquiétude la plus pénible. Je fus tenté de faire du bruit pour l'avertir du danger qu'elle courait, quoique ma mort dût être la conséquence de ce dangereux avis. Il était affreux de voir ce tigre ainsi accroupi, guettant sa victime et tout prêt à fondre sur elle, tandis qu'elle s'approchait sans défiance. Et il n'y avait que le plus grand hasard qui pût la sauver. J'eus le bonheur de voir ce hasard lui être favorable. Elle prit tout à coup une route opposée qui mène hors des bois, et où les voleurs n'osèrent pas se hasarder. C'est à ce détour accidentel qu'elle dut son salut. Je ne pouvais concevoir pourquoi le capitaine s'était avancé à une si grande distance de la hauteur où nous avions laissé la sentinelle qui attendait le messager. Il me parut inquiet du danger auquel il s'était exposé. Ses mouvements étaient vifs et brusques. Je pouvais à peine le suivre. À la fin, au bout de 3 heures de ce qu'ils appelaient une marche forcée, nous arrivâmes à l'extrémité de ces mêmes bois dont nous avions occupé le sommet pendant la journée. Et j'appris avec joie que nous devions y passer la nuit. « Vous devez être fatigué, » me dit le capitaine. « Mais il était nécessaire de battre les environs pour ne pas être surpris pendant la nuit. Si nous eussions rencontré la fameuse garde civile de Rocaprioli, nous aurions eu une chaude affaire. Telles étaient les précautions infatigables et la prudence de ce chef de brigand qui, vraiment, donnait des preuves réelles d'un grand talent militaire. » La nuit était superbe. La lune, se levant à l'horizon, entourée de nuages blancs, jetait une lueur incertaine sur ces montagnes énormes, tandis que de petites lumières, scintillant çà et là comme les étoiles terrestres répandues sur la vaste et sombre étendue du paysage, trahissaient les cabanes solitaires des vergers. Accablé par la fatigue et l'agitation pénible que j'avais éprouvées, je me préparais à dormir, soutenu par l'espoir d'une prochaine délivrance. Le capitaine fit apporter de la mousse sèche. Il en forma avec ses mains un matelas et un oreiller d'une espèce nouvelle, et il me donna son grand manteau pour me servir de couverture. Je ne pouvais m'empêcher d'être à la fois surpris et reconnaissant de ces prévenances si inattendues de la part de ce charitable assassin. Car il n'y a rien de plus frappant que de trouver les sentiments ordinaires de pitié, si naturels dans un autre genre de vie, florissant à côté des habitudes féroces du crime. C'est comme lorsque l'on trouve les tendres fleurs et les herbages frais de la vallée au milieu des laves et des cendres du volcan. Avant de m'endormir, je causai quelque temps avec le capitaine qui parut m'accorder une grande confiance. Il reprit la conversation que nous avions commencée le matin, me dit qu'il était las de la vie hasardeuse qu'il menait, qu'il avait acquis assez de fortune et qu'il désirait rentrer dans le sein de la société et vivre tranquille au milieu de sa famille. Il voulait savoir s'il était ou non en mon pouvoir de lui faire avoir un passeport pour les États-Unis d'Amérique. J'applaudis vivement à ses bonnes intentions et lui promis de faire tout ce qui serait en mon pouvoir pour qu'il réussisse dans son dessein. Nous nous séparâmes pour dormir. Je me couchai sur le lit de mousse qui, après les fatigues que j'avais éprouvées, me parut aussi doux qu'un lit de plume, et, à l'abri de toute humidité sous le manteau du capitaine, je dormis profondément, sans m'éveiller, jusqu'au signal donné pour se lever. Il était près de 6 heures, et le jour commençait à poindre. Comme l'endroit où nous avions passé la nuit était trop exposé à une surprise, nous nous enfonçâmes dans l'épaisseur de la forêt. Un grand feu fut allumé. Tant qu'il donna de la flamme, les manteaux furent étendus alentour, et quand il ne resta plus que des charbons, on les retira et les voleurs s'assirent en cercle. La scène qui se passait devant moi me rappelait quelques-unes de celles que raconte Homère. Il ne manquait plus que la victime et le sacré couteau occupé à entailler les parties délicates et à les distribuer à la ronde. Mes compagnons pouvaient rivaliser en physionomie farouche avec les héros de la Grèce. Toutefois, au lieu des nobles repas d'Achille et d'Agamemnon, nous nous occupâmes sur le gazon, autour des restes du jambon qui avait soutenu la veille une si vigoureuse attaque et auquel on adjoignit ceux du pain, du fromage et du vin. Nous avions à peine commencé notre frugal déjeuner quand j'entendis encore imiter le bêlement de la brebis comme je l'avais entendu la veille. Le capitaine répondit de la même manière à ce signal. Nous vîmes aussitôt 2 hommes descendre la forêt à l'endroit où nous avions passé dans la soirée précédente. En les voyant de plus près, nous les reconnûmes pour la sentinelle et le messager. Le capitaine se leva et alla les joindre. Il fit signe à ses compagnons de le suivre. Ils eurent ensemble une courte discussion et, revenant aussitôt à moi avec empressement, « Votre rançon est payée, me dit-il. Vous êtes libre. Quoique j'eusse déjà joui d'avance de ma délivrance, je ne puis vous exprimer quelle joie me firent éprouver ces paroles. Je laissai là le repas commencer et me préparai à partir. Le capitaine me prit la main, me demanda la permission de m'écrire et me pria de ne pas oublier le passeport. Je lui répondis que j'espérais lui être utile et que je réclamais de son honneur qu'il rendît le billet du prince de $500 maintenant que l'argent était payé. Il me regarda un moment avec surprise, puis, semblant se rappeler un souvenir confus, « Adiusto, me dit-il, eccolo, adio. » Il me rendit le billet, me serra la main et nous nous séparâmes. On permit aux 2 paysans de me suivre et nous reprîmes avec joie le chemin de Tusculum.